écoutez Radio France Internationale. Bienvenue si vous nous rejoignez, il est 5h30 ici à Paris.
Vincent Dublange.
Et c'est Afrique Matin qui débute le journal, bien sûr. À la une, la guerre Iran-Israël est-elle en passe de se terminer? Le président américain annonce un cessez-le-feu, mais sur le terrain, les missiles continuent à l'heure où l'on parle de pleuvoir. On va y revenir largement encore ce matin sur Radio France Internationale. Notre invité à 6h15, heure de Paris, Sébastien Boussois, chercheur spécialiste du Moyen-Orient. Dans ce journal reportage au Maroc, où l'inquiétude est grande chez les habitants de Casablanca que nous avons rencontrés, notamment sur les conséquences économiques de cette guerre. À la une de cette édition, l'alerte de l'ONU alerte sur le risque élevé, je cite, de génocide au Soudan. On entendra l'une des responsables qui a fait cette déclaration en RDC. Nous tenterons d'en savoir plus, de décrypter encore une fois cette rencontre. C'était samedi entre le président Tshisekedi et les responsables religieux qui continuent de plaider donc pour un grand dialogue national. Il semble que la présidence congolaise se range également à cet avis. Et puis à Madagascar, les épreuves de sport, c'est le baccalauréat d'éducation physique et sportive, elles se poursuivent. Et ce n'est pas simple de faire du sport dans le pays où on ne mange pas toujours à sa fin. Reportage de Pauline Letroquier à suivre dans 10 minutes. Et d'abord donc cette situation incertaine au Proche et au Moyen-Orient. Un cessez-le-feu, je vous le disais, est annoncé par Donald Trump en personne. Cessez-le-feu entre Israël et Iran qui doit, selon le président américain, entrer en vigueur dans une demi-heure. Pour le moment, la guerre par les airs continue puisque de puissantes explosions ont été entendues cette nuit à Téhéran. Parmi les plus violentes depuis l'attaque israélienne il y a une dizaine de jours, l'armée israélienne affirme que des missiles iraniens ont également été tirés en direction d'Israël. D'après le ministre iranien des Affaires étrangères, il n'y a pas d'accord en tant que tel, mais, je cite, « si le régime israélien arrête son agression illégale contre le peuple iranien au plus tard à 4h du matin, heure de Téhéran, nous n'avons pas l'intention de poursuivre notre réponse par la suite », dit le chef de la diplomatie. Nous serons en direct de Washington DC dans le prochain journal international dans 30 minutes et en direct toujours sur notre application RFI. Sur le plan des réactions, l'Afrique demeure en grande partie silencieuse. L'Afrique du Sud, on le disait hier matin, appelle au dialogue. Et les pays d'Afrique du Nord, comme l'Algérie ou la Tunisie, appelaient hier dans la journée au cessez-le-feu, au respect du droit international. Au Maroc, pas de réaction officielle. Le parti islamo-conservateur, le PJD, soutient l'Iran. Et la population dans tout ça, reportage de Mathias Reynal dans les rues de Casablanca.
Il préfère répondre de manière anonyme. Nous l'appellerons Mohamed. Il a la quarantaine et il est très inquiet de cette escalade au Moyen-Orient.
Comment vous dire, c'est un choc de suivre ça sur les réseaux sociaux. T'as l'impression que c'est le début de la Troisième Guerre mondiale.
Mohamed craint également des effets sur le Maroc.
Il faut prévoir des retombées économiques négatives. J'ai entendu dire qu'il y aura une nouvelle hausse des prix, comme ça s'est passé au début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine.
Pendant la guerre de la Russie et l'Ukraine.
Dimanche dernier, à Rabat, quelques milliers de personnes se sont réunies pour manifester contre les attaques qui ont visé l'Iran. Hassan, 56 ans, soutient le mouvement.
À 100%, je suis aux côtés du pays qui a été attaqué en violation du droit. Les États-Unis, c'est Israël qui les a conduits à cette escalade. Trump s'est précipité alors que des négociations pour préserver la paix étaient en cours.
Le Maroc n'a pas encore réagi officiellement aux frappes menées contre les sites nucléaires iraniens. Rabat a rompu diplomatiquement avec Téhéran en 2018, l'accusant de soutenir à travers le Hezbollah le Front Polisario. Mathias Reynal, Casablanca, RFI.
Des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et un risque de génocide au Soudan très élevé. Alerte hier de la conseillère spéciale du patron de l'ONU pour la prévention du génocide, Virginia Gamba, qui s'exprimait à Genève devant le Conseil onusien des droits humains.
Les attaques continues et ciblées contre certains groupes ethniques, en particulier dans la région du Darfour et du Kordofan, constituent une préoccupation spécifique dans le cadre de mon mandat. Les FSR et les milices arabes armées alliées continuent de mener des attaques à motivation ethnique contre les Agawas et les Massalites et d'autres communautés. Les deux camps ont commis de graves violations des droits de l'homme. Le risque de génocide, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité au Soudan reste très élevé. Des milliers de civils ont été tués et plus de 10,5 millions de personnes ont été déplacées. Le conflit au Soudan entre les forces soudanaises et les forces de soutien rapide continue d'avoir un effet dévastateur sur la population civile, alors que la guerre est entrée dans sa troisième année.
La conseillère spéciale sur la prévention du génocide, qui est préoccupée donc par le Soudan, mais aussi par la RDC et le Sahel. Propos recueillis par Walid Diallo. Le Sahel est le bilan qui s'alourdit après l'attaque d'un village samedi soir dans le sud-ouest du Niger, près des frontières du Burkina Faso et du Mali. De sources locales, le bilan s'élève désormais à 71 morts, des civils et une vingtaine de blessés. Les assaillants ont attaqué des fidèles rassemblés devant la mosquée du village. Face aux groupes armés, le Mali continue de miser sur la Russie. Le président Assimi Goïta est à Moscou depuis plusieurs jours. Il a vu hier Vladimir Poutine. Dans le même temps, son ministre de la Défense a rencontré son homologue russe. La Russie assume désormais clairement son rôle au Mali et notamment le remplacement de Wagner par Africa Corps, directement géré par les services de sécurité russes. Nous sommes à Moscou dans le journal de 4h TU.
RFI à Bounia, 90.2 FM.
La capitale de l'Itourie, dans le nord-est de la RDC, suspendue aux lèvres du général Muhoozi Kainerugaba, le patron de l'armée ougandaise, qui est aussi le fils du président Yoweri Museveni et qui est coutumier des prises de parole sur les réseaux sociaux. Dernières en date, celles où il demande le départ du gouverneur militaire de la province de l'Itourie, en RDC, et où il menace aussi de combattre les Wazalendo, ces groupes armés hétéroclites, mais alliés à l'armée congolaise. Une armée congolaise avec laquelle, justement, pourtant, le général Muhoozi Kainerugaba vient de signer samedi à Kinshasa la poursuite de l'opération conjointe Shuja contre les ADF. Difficile à comprendre, on tente de décrypter tout ça dans une heure dans le prochain journal Afrique. Et puis sur l'appli RFI, on vous explique pourquoi, de manière générale, l'Ouganda tente de consolider sa position stratégique dans l'est de la RDC. Pour l'heure, nous sommes à Kinshasa. On revient ce matin sur cette rencontre. On en parlait hier et ces derniers jours. Rencontre samedi entre responsables catholiques et protestants d'un côté et le président Félix Tshisekedi de l'autre. Demain, le rapport des religieux sur la crise dans l'est de la RDC va être rendu public. Recommandations, notamment un dialogue national sur lequel planchent de concert les hiérarchies des deux grandes confessions religieuses et la présidence congolaise, voire peut-être bientôt d'autres. Détails avec Pauline Azidi.
Il fallait lever des malentendus, c'est chose faite, confient plusieurs participants à cette rencontre qui a au moins une fois été reportée. Ce rendez-vous a notamment permis au président de faire part aux religieux de ses préoccupations et de s'assurer qu'ils ne travaillaient pas contre le pouvoir en place. « Nous n'avons pas d'autre choix que d'avancer ensemble pour sauver notre pays », estime-t-on désormais du côté de la présidence. Dorénavant, il faut se revoir pour lancer une commission mixte dont la tâche sera de définir les modalités de ce dialogue porté par le pacte social des églises. Ceux qui étaient de la première réunion vont en constituer le noyau, explique un proche du dossier, qui ajoute que des personnalités pourraient les rejoindre, notamment des membres d'autres confessions religieuses. L'objectif est de commencer le travail au plus tard la semaine prochaine. Il y aura ensuite rapidement des propositions, une feuille de route et un calendrier, ajoute notre source. Deux axes doivent désormais guider l'organisation de ce forum national. L'inclusivité, tous les Congolais qui veulent œuvrer pour le bien du pays seront les bienvenus autour de la table, et le respect de l'ordre constitutionnel, une ligne rouge non négociable. Pauline Azidi, Kinshasa, RFI.
Radio France Internationale, 6h39 à Nairobi, ils sont 6 poursuivis, notamment 3 policiers suite à l'affaire de la mort d'Albert Ojwang, le commandant du poste où il avait été emmené dans un premier temps, le blogueur décédé. Le commandant du poste fait partie des personnes inculpées, mais le chef adjoint de la police kenyane n'en fait pas partie, ce que critique la commission kenyane des droits humains. Le Kenya en première ligne face au changement climatique. Le gouverneur du comté de Nairobi est en ce moment à Paris. Les élus locaux sont dans la capitale française pour préparer la prochaine COP climat qui aura lieu dans le nord du Brésil en octobre à Belém. En 2050, les deux tiers des terriens vivront en ville et il faut donc adapter les villes. Nairobi, comme beaucoup d'autres cités dans le monde, a connu ces dernières années des catastrophes climatiques. Des actions sont entreprises, mais les financements ne suivent pas assez, selon Sakaja Arthur Johnson, gouverneur donc du comté de Nairobi City.
Il est clair que le plus grand défi pour le continent africain, c'est le financement de l'action climatique. L'Afrique, c'est la prochaine étape de la lutte contre le changement climatique. Nous disposons du plus grand potentiel solaire. 60% du potentiel solaire mondial se trouve en Afrique. Nous possédons les plus grands puits de carbone. Prenons l'exemple de la forêt du Congo. Pourtant, si l'on considère les agences de notation, nous sommes considérés comme des pays à risque, malgré la nécessité d'investir sur le continent. À Nairobi, par exemple, 93% de l'énergie est renouvelable. Elle provient de l'hydroélectricité et de la géothermie. Et très peu d'endroits au monde peuvent se vanter d'en faire autant. L'Afrique deviendra la région la plus peuplée du monde dans les 25 prochaines années. Mais nous ne voyons aucune mesure concrète pour assurer notre sécurité future. C'est donc le plus grand défi financier, et en particulier pour les collectivités locales.
À propos, recueilli par Amélie Tullet, les pluies qui tombent en trombe et dévaste. Les habitants de Bor au Soudan du Sud connaissent bien l'histoire. La ville est située au bord du Nil Blanc et a connu d'importantes inondations qui sont venues aggraver une situation déjà compliquée en raison du contexte sécuritaire au Soudan du Sud. Mais qui dit eau dit poisson, et les femmes notamment de Bor ont réussi à rebondir en organisant toute une filière autour du commerce de poissons. Reportage Florence Mietto.
Sur le port de Bor, des centaines de femmes s'activent entre les monticules de poissons séchés. Anguère Amol, la quarantaine, empile des poissons préservés avec du gros sel. Comme toutes les autres femmes ici, elle s'est lancée dans cette activité il y a moins de 3 ans pour rebondir après les inondations qui ont ravagé son village.
C'est pour survivre que nous faisons ce travail, car quand les inondations ont détruit nos fermes, nous n'avions plus rien pour nourrir nos enfants. J'ai commencé comme vendeuse, puis j'ai réussi à économiser un peu, et maintenant je travaille avec mes fils. Eux, ils pêchent, et moi je m'occupe de découper, de saler le poisson. C'est un travail très difficile. On tombe malade à cause des moustiques.
Agnès Anguette Bock, 50 ans, se tient près d'un énorme cube de poisson empilé. Chassée de son village en 2020 par la montée des eaux, elle est employée par un pêcheur pour vendre sa marchandise.
Je suis la seule à subvenir aux besoins de ma famille. Et c'est grâce à ce boulot que j'y parviens. Le pêcheur me paie en poisson et c'est en le revendant que je gagne ma vie. Heureusement que nous avons cette incroyable quantité de poissons ici, à Bor. Notre village est complètement désert maintenant, donc nous préférons rester en ville pour travailler.
Si cette opportunité économique est assez miraculeuse dans un contexte de grave crise humanitaire au Soudan du Sud, les conditions de travail des femmes dans le commerce de poissons à Bor demande toutefois à être amélioré. Elles n'ont en effet aucun abri pour se protéger du soleil et de la pluie. Florence Mietto, de retour de Bor, RFI.
Il est 6h42 à Tana et c'est l'heure du sport. Les épreuves d'éducation physique et sportive du baccalauréat se poursuivent à Madagascar. Le sport, ce n'est pas simple dans le pays. Pourquoi ? Reportage de Pauline Le Troquet au centre d'examen Saint-Michel à Antananarivo. Prêt ?
Top départ pour 800 mètres de course de fond. Aux abords du terrain, une ambulance est postée. Le stress se lit sur le visage d'une centaine de parents venus soutenir leur enfant. Florina reprend son souffle.
Au bout du tour et demi, j'ai commencé à avoir du mal.
La lycéenne de 17 ans a travaillé comme elle le pouvait son endurance, même si ce n'est pas facile tous les jours.
À partir du 3e mois avant le bac, j'ai commencé à aller tout le temps à pied, à l'école, à pied. Mais après, je trouve ça toujours dur. En plus, il y a des moments où c'est la galère. Moi, par exemple, je suis la grande sœur à la maison. Du coup, s'il n'y a pas assez de riz, je me sacrifie un peu. Comme ça, ma sœur, elle en mange plus.
Ce matin, seule une poignée de candidats ont eu le luxe de se préparer depuis plusieurs mois pour viser la meilleure note possible. Mais les examinateurs sont formels. Le niveau baisse d'année en année et la tendance concerne d'abord les profils les plus touchés par les rationnements alimentaires et une santé générale fragilisée. C'est ce que remarque Benz Rakutunjanaïve, chef du centre d'examen Saint-Michel à Antananarivo.
Depuis 15 jours, on voit clairement dans tout Madagascar des candidats malnutris qui arrivent sans même avoir pu manger le matin de l'épreuve. Certains s'évanouissent et sont déclarés tout simplement inaptes. Cette année particulièrement, on voit d'ailleurs une baisse du niveau général pour l'épreuve.
Actuellement, le barème de notation a été révisé à la baisse en vue d'adapter l'épreuve obligatoire au contexte socio-économique tendu. Pauline Troquier, Antananarivo, RFI.
Et un petit mot du mondial des clubs qui se joue aux États-Unis. Le FC Porto et Al Ahly du Caire ont fait match nul, 4 buts partout. Le PSG est qualifié, affrontera l'Inter Miami de Lionel Messi en 8e de finale.
Afrique Matin sur RFI.
Et journal des sports complet dans une heure. Antoine Grenier avec nous dans ce studio. À suivre dans les minutes qui viennent les conséquences de la guerre au Moyen-Orient sur les prix des engrais dans le monde. Conséquences bien concrètes aussi des coupes budgétaires et de la réforme profonde d'organisation de l'ONU. RFI a interrogé des acteurs concernés pour Afrique Économie. Dans 10 minutes, l'info à Mayotte et La Réunion. Mais d'abord, on va voir si vous êtes un ou une fidèle auditeur ou auditrice d'Afrique Matin. Question, quel était le score de la finale de la Coupe du Monde de rugby 1995 remportée par l'Afrique du Sud à domicile contre les All Blacks néo-zélandais? Cela fait pile 30 ans aujourd'hui que la nation arc-en-ciel a célébré dans cet Ellis Park plein comme un œuf à Johannesburg avec un Nelson Mandela président noir fier du symbole et de cette victoire donc des Springboks. Ce matin, on vous raconte cette finale historique au-delà du sport avec certains d'entre eux qui y étaient. Et comme je ne suis pas cruel, je vous redonne le score que je vous ai donné hier matin. 15 à 12 pour les box. Pour le reste, suivez le guide Valentin Hugues.
Nous avançons dans un long couloir chargé d'histoire. Il relie les vestiaires à la pelouse. Et 30 ans plus tôt, le 24 juin 1995, le jour de la finale, Rudolf Straoli l'empruntait en tant que joueur.
J'étais impatient d'arriver au bout de ce couloir.
À l'époque, il entre sur le terrain avec le numéro 19 sur le dos.
Le président était assis là, nous on sentait le stade vibrer.
Devenu un temps entraîneur des Springboks, l'ancien joueur de près de 2 mètres dirige aujourd'hui le club de Johannesburg, les Lions, un club basé à Ellis Park. Ce stade de la finale 1995, c'est donc devenu son bureau.
Après avoir soulevé la coupe, je voulais jouer un plus grand rôle. Donc je suis fier de m'occuper du stade et de vous montrer notre musée aujourd'hui. Là, c'est moi avec ma signature.
Un musée qui retrace l'histoire du rugby sud-africain, avec évidemment des photos de Nelson Mandela, qui a fait de cette première victoire en Coupe du Monde un tournant pour l'Afrique du Sud.
Quand il est arrivé avec le maillot numéro 6, c'était une surprise, on était tous nerveux, mais positivement.
Sam Nianizo est salarié du club et nous accompagne le temps de la visite. Et même si ce fan de rugby travaille avec le champion du monde depuis des années, il n'est jamais à court de questions.
Rudolf, sans Mandela, tu penses que vous auriez gagné ?
Il a joué un rôle central. Son projet pour le pays nous a évidemment motivés.
Moi, j'avais 11 ans. J'ai regardé la finale sur une petite télévision. Les gens sont sortis dans la rue, ils klaxonnaient, blancs et noirs se prenaient dans les bras. Et quelques années plus tard, quand Rudolf est devenu coach, mon père a été recruté pour travailler avec. C'est lui sur cette photo.
Le rugby, c'est un sport qui peut changer une société.
Pour un gars comme moi, ça a ouvert tellement de portes. Je n'oublierai jamais cette finale.
30 ans plus tard, l'Afrique du Sud reste un pays fracturé et particulièrement inégal. Rudolf Straoli, fidèle à la mentalité de 1995, continue donc d'utiliser le rugby comme un vecteur d'unité et d'espoir pour les Sud-Africains. Valentin Hugues, Johannesburg.
Et que reste-t-il de cette mentalité arc-en-ciel de juin 1995 dans le rugby sud-africain? Quel est son héritage chez les plus jeunes? Dernier volet de notre série, demain, même antenne et à tout moment sur l'appli de podcast RFI Pure Radio.
RFI, toute l'actualité.
Vincent Dublange.
Afrique Éco et l'ONU qui manque d'argent et qui licencie dans une minute. Mais d'abord, la une de l'actualité internationale de ce mardi 24 juin 2025. Donald Trump qui annonce donc que l'Iran et Israël auraient accepté un cessez-le-feu. Il doit déboucher sur la fin officielle de la guerre qui dure depuis le 13 juin, dit le président américain. Conflit dans lequel, pour rappel, les États-Unis sont intervenus directement en bombardant des sites nucléaires iraniens. C'était dans la nuit de samedi à dimanche. Mais selon le chef de la diplomatie iranienne, il n'existe pas d'accord à ce stade. Téhéran n'a toutefois pas l'intention, dit-il, de poursuivre ses frappes si Israël arrête, je cite, son agression. De son côté, Israël n'a pas pour l'heure confirmé ou infirmé cette annonce de Donald Trump côté terrain, dans les airs. Quelques heures auparavant, Téhéran lançait des missiles en direction de la base militaire américaine au Qatar. Pas de dégâts rapportés, des tirs aussi rapportés ce matin vers Israël et vers Téhéran. Actualité qu'on l'en suit largement ce matin sur RFI. C'est une réforme qui tient en quelques mots, mais aux conséquences déjà bien visibles dans plusieurs pays africains, notamment la réforme de l'ONU présentée en mars. Coupes budgétaires, réduction des effectifs
et relocalisation, dit le site internet général des Nations Unies, sans plus de précision. Le contexte, on le connaît, au-delà des questions d'organisation, il s'agit surtout d'économiser pour l'ONU, économiser de l'argent, car les États, et notamment l'Amérique de Donald Trump, en donnent de moins en moins. Charlotte Cosset explore les premières mesures et les premières conséquences.
Cette humanitaire préfère rester anonyme. Elle travaille dans une mission de l'ONU. Elle a été prévenue le 1er juin que son contrat serait résilié dès la fin du mois.
Je pense que personne ne s'attendait à ce que les choses prennent une tournure aussi radicale. Des milliers de personnes ont été licenciées. Il y a peut-être 80 expatriés, mais il y a aussi des centaines de salariés locaux. Les gens sont à juste titre extrêmement contrariés et frustrés, car l'effet sur la vie des gens au niveau local est très profond. À l'heure actuelle, et c'est sans doute endémique aux Nations Unies, il y a aussi un manque de communication directe, ce qui rend certains processus inutilement opaques.
La réduction substantielle des aides américaines, une crise de liquidité au sein du système onusien et un besoin de réforme générale justifient ces coupes drastiques. Thomas Burns est à la tête de Market Impact, un cabinet de conseil humanitaire. Il suit la refonte en cours et tente de compiler l'ensemble des données dispersées.
Le système humanitaire mondial doit être réformé, ça ne fait aucun doute. Mais ce à quoi nous assistons est très brutal. Au sein des Nations Unies, le Programme alimentaire mondial, la plus grande agence humanitaire, a dû supprimer 25 à 30% de ses effectifs mondiaux. L'Organisation mondiale de la santé a, elle, dû réduire de 25% ses programmes d'urgence. Il n'y a pas de temps pour la négociation, car dans de nombreux cas, les activités ont été immédiatement gelées. C'est pourquoi l'impact est si dévastateur.
Les conséquences sont directes sur les emplois et les activités humanitaires, mais elles touchent également l'ensemble des sous-traitants locaux ainsi que l'économie des localités dans lesquelles ces travailleurs étaient basés. Jacques Moukena, spécialiste gouvernance et économie à l'Institut congolais et Bouteli.
Leur départ va forcément avoir un impact. Il y aura plus de demandes en tout cas sur les logements qui sont beaucoup plus élevés. Il y aura peut-être plus de demandes sur des produits qu'ils ont introduits. La liste est très longue en fait. Je peux prendre juste l'exemple des Nations Unies. Ils roulent généralement en 4x4. Et donc, quand ils arrivent dans un endroit comme Calibi, où il n'y avait pas forcément de garage ou des boutiques de pièces détachées pour les 4x4, il n'y aura plus une forte demande comme avant. C'est un peu ça. Y compris tout ce qui est service de sécurité, parce qu'ils veulent généralement habiter dans des endroits beaucoup plus sécurisés. Il n'y aura peut-être plus une forte demande de tous ces services-là. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui vont changer localement.
Selon les modélisations internes révélées par The Economist, le système onusien pourrait se retrouver à court de liquidités dès le mois de septembre.
Et la ville dont parle notre dernier interlocuteur pour celles et ceux qui n'ont pas une carte de la RDC devant eux, c'est Kalemi, sur les rives du lac Tanganyika à l'est du Congo. 5h52 à Paris, les matières premières et après le secteur du pétrole. Hier, d'ailleurs les cours continuent de chuter ce matin, moins 7% sur les deux grandes bourses. Ce matin, exploration d'un autre secteur qui est aussi plongé en pleine inconnue depuis le déclenchement de la guerre entre Israël et l'Iran, celui des engrais, d'abord parce que le conflit risque de mettre en péril les exportations de gaz. Le gaz, ça sert à fabriquer notamment certains types d'intrants agricoles, mais aussi parce que l'Iran est lui-même producteur d'engrais. Bonjour Marie-Pierre Olfand.
Bonjour.
Les marchés ont déjà réagi. L'urée, l'un des engrais les plus utilisés dans le monde, a vu son prix augmenter.
Oui, la hausse est de 50 à 80 dollars par tonne selon les régions du monde. On peut parler d'une augmentation en moyenne de 20% en une dizaine de jours, ce qui est considéré comme une hausse gigantesque. La première raison, c'est que la production s'est arrêtée en Iran. Or, le pays exporte en temps normal 5 à 6 millions de tonnes d'urée par an. Et quand un fournisseur qui compte est empêché, comme c'est le cas aujourd'hui, les marchés réagissent souvent très vite, voire même par anticipation.
La hausse des prix est dû aussi, Marie-Pierre, à un arrêt temporaire de la production d'urée en Égypte.
Oui, la car Israël a dû suspendre les flux qui partaient de ses champs gaziers vers l'Égypte le 13 juin. Un coup dur pour les fabricants égyptiens d'engrais qui souffrent déjà d'ordinaire en cette saison chaude, car une partie de l'approvisionnement en gaz sert à faire tourner aussi des climatiseurs. L'arrêt de l'approvisionnement israélien en gaz n'a duré finalement que 6 jours, mais cela a suffi à alimenter la hausse des prix. Plusieurs autres facteurs haussiers et baissiers l'acier pèse dans la balance. Il est donc aujourd'hui très difficile de dire comment vont évoluer les prix de l'urée dans les prochaines semaines.
Ces tensions, Marie-Pierre, se reflètent dans un appel d'offres émis par l'Inde.
Un appel d'offres pour acheter de l'urée. Il y a eu beaucoup de candidats. Les deux meilleures propositions de prix ont été validées, logiquement. L'Inde a ensuite tenté de convaincre, comme elle le fait généralement, les recalés de s'aligner sur ces prix, mais personne n'a voulu s'engager tant la situation géopolitique et son impact sur les cours est incertaine. Résultat, le pays n'a pu acheter que 230 000 tonnes d'urée alors que ses besoins sont estimés à plus d'un million de tonnes et rien ne dit que ceux qui ont remporté l'appel d'offres indien pourront livrer au prix annoncé.
Merci Marie-Pierre Olfan. L'info avec nos collègues du réseau de services publics. La première dans l'océan Indien à la une, la plus vaste commune de la Réunion, Saint-Paul, sur la côte ouest, qui organisait ce lundi ses états généraux du logement et de l'habitat. Bonjour Benoît Ferrand.
Bonjour. Élus, bailleurs sociaux, promoteurs immobiliers et autres associations ont débattu sur un sujet très délicat dans le département 97.4, 5000 logements manquants rien que pour la commune de Saint-Paul. Écoutez le maire Emmanuel Séraphin au micro d'André Racoton-Dravoul.
La commune doit être en avant, même si c'est pas sa compétence première, au sein d'une interco, au sein d'une région, d'un département, mais surtout au niveau national. Aujourd'hui, on n'a plus de mesures d'incitation sur la défisque, ça n'existe plus. Sur l'accompagnement, il reste des financements, mais il faut des mesures, des lois, et on voit la panne qu'on a au plus haut niveau de l'État. Donc c'est au territoire, donc au maire, de prendre en main ces mesures-là pour être pragmatique et offrir plus de construction, plus de logements à nos concitoyens. Aujourd'hui, on a besoin de 5200 logements précisément. Ce sont des logements de décohabitation, des gens qui sont dans des logements surpeuplés. Ce sont des jeunes qui veulent prendre leur émancipation, qui travaillent, de créer des logements pour des jeunes actifs, de créer aussi des logements pour des seniors, adapter la construction à la demande de ceux qui habitent ce territoire.
Sermonné, entre guillemets, le 10 juin dernier par la Chambre régionale des comptes Réunion-Mayotte, le Conseil départemental de Mayotte va devoir réviser un peu à la baisse son budget primitif adopté en mars dernier et notamment la partie consacrée aux investissements. Explication Kalatoumi Abdelhadi.
502 millions d'euros en fonctionnement et 240 millions d'euros en investissement, soit plus de 740 millions d'euros, c'est le montant du budget primitif voté par la majorité des élus départementaux le 25 mars dernier. Seuls deux élus de l'opposition, Hélène Polozek et Soula Saïd Soufou, s'étaient abstenus. Selon eux, ce budget n'était pas assez ambitieux en matière d'investissement, surtout après le passage du cyclone Chido. Et pourtant, c'est bien le budget investissement qui devrait être réduit de 12 millions d'euros sur recommandation de la Chambre régionale de comptes. Sur saisine du préfet Bioville, la Chambre régionale de comptes considère que le budget primitif voté précédemment est en déséquilibre. Reste à savoir sur quel investissement les conseillers départementaux vont devoir faire des économies dans ce contexte post-Chido ou même le siège du département doit être reconstruit.
On termine avec la conférence de presse hier matin de Manuel Valls, l'occasion pour le locataire de la rue Oudinot, le ministre des Outre-mer, de défendre son projet de loi de reconstruction du département 101, projet de loi dont l'examen a débuté hier à l'Assemblée nationale.
L'État porte, le gouvernement porte, une ambition politique sans précédent pour Mayotte. Depuis des années, pour ne pas dire des décennies, les Mahorais attendent ce texte qui doit répondre à leur aspiration à l'égalité réelle et au parachèvement de la départementalisation. Nous y sommes. Le projet de loi pose d'abord un constat implacable. Si nous ne nous attaquons pas avec détermination à l'immigration illégale et aux bidonvilles, alors nous risquons de reconstruire Mayotte, de refonder Mayotte sur du sable. C'est pourquoi le texte comporte un volet durcissant les conditions d'accès au séjour pour l'immigration familiale et améliore les dispositifs de lutte contre les reconnaissances frauduleuses de paternité.
Fin de cette édition. Bonne journée.
Merci Benoît, bonne journée également. Je vous signale que le premier article de cette loi a été adopté tout à l'heure vers minuit, heure de Paris. Les discussions reprennent demain, mercredi, en fin de journée à l'Assemblée nationale et elles devraient s'étendre tout au long de la semaine sur ce projet de loi Mayotte. À la une du prochain journal Afrique dans une demi-heure, pourquoi donc le silence globalement sur le continent africain par rapport à la guerre Iran-Israël et puis des nouvelles de l'état de santé du président Faustin Archange Touadéra en Centrafrique.
Tout à l'heure sur RFI, de vive voix, Pascal Paradou.
Ils étaient cinq jeunes ce 28 septembre 2009 à Conakry pour réclamer la démocratie quand la répression policière s'est abattue sur eux. L'un meurt, les autres sont brisés. Birgilsa Diallo raconte leur parcours dans Transhumance, un roman intime sur les violences politiques.
Les langues s'expriment de vive voix avec Pascal Paradou, du lundi au jeudi à 13h30 TU sur RFI.